Il est 9h sur France Culture. Restez à l'écoute, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Au moins 32 morts et 50 blessés en Libye, des raids aériens et des offensives terrestres à Tripoli. Les combats continuent de faire rage dans le sud de la capitale libyenne que veut conquérir le général Haftar, l'homme fort de l'est du pays. Face à ses troupes, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli est soutenu par les Nations Unies. Il a proclamé hier le début d'une contre-offensive baptisée « Volcan de la colère » afin, je cite, de nettoyer toutes les villes libyennes des agresseurs. Les espoirs de paix et de dialogue s'amenuisent alors qu'une conférence nationale est toujours inscrite au calendrier de l'ONU de dimanche à mardi prochain dans le sud de la Libye. En attendant, la peur gagne les habitants de Tripoli. Maureen Mercier, vous avez pu joindre l'un de vos contacts qui vit justement dans le sud de la capitale libyenne, non loin de la zone actuelle de combat.
Ce père de famille, quatre enfants, a comme tous les Libyens déjà vécu deux guerres civiles depuis la chute en 2011 de Muammar Kadhafi. Voir le général Haftar attaquer la capitale, c'est pour lui un coup de massue. La rumeur planait depuis des mois, mais il se refusait d'y croire.
On n'a jamais pensé d'avoir la guerre sur Tripoli. Il y a beaucoup de victimes civiles. À partir de vendredi, il y avait une guerre très très forte. On parle de 8 civils qui sont morts, deux enfants.
Si les gens se déplacent, c'est pour faire des provisions uniquement.
Les gens, ils sont morts. Il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas au travail. Les écoles, ils sont ouvertes, mais il y a beaucoup d'absence des étudiants. La ville est vide.
Peur de la guerre, et à cela s'ajoute une autre crainte, le terrorisme islamiste.
Aujourd'hui, Daesh profite des guerres comme ça pour faire des attentats. Donc les gens, ils font attention, ils disent maintenant, c'est pas le moment de bouger, il faut rester à la maison, dans les quartiers même, voilà.
La crainte de ce père de famille, c'est que la guerre se prolonge. Selon lui, aucune force n'a les moyens de prendre le dessus facilement. Mais les deux camps ont les moyens de faire durer la guerre très longtemps.
Et si le Soudan empruntait la voie tracée par l'Algérie à Khartoum, des soldats ont pris la défense ce matin des milliers de manifestants qui réclament le départ du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans. Le soutien de l'armée donc, alors que ces manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par des forces de sécurité. Après une mobilisation inédite ce week-end depuis le mois de décembre et la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Une question à la une ce matin en France. Que ressort-il des milliers de cahiers de doléances et du 1,5 million de contributions sur Internet dans le cadre du grand débat national lancé par l'exécutif pour répondre à la crise des gilets jaunes? Deux premiers éléments sont dévoilés en ce moment d'un instant à l'autre par le Premier ministre Édouard Philippe. Aucune annonce sous la verrière du Grand Palais à Paris, mais des précisions à venir sur l'état d'esprit du gouvernement face à cette grande synthèse et cette consultation inédite avant des arbitrages d'Emmanuel Macron dans une semaine environ. Et pour contribuer au financement des mesures d'urgence déjà annoncées par le chef de l'État face à la mobilisation des gilets jaunes, la taxe GAFAM arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés doivent examiner le projet de loi du ministre de l'Économie Bruno Le Maire visant donc à taxer les géants du numérique, les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, champions de l'optimisation fiscale. Le gouvernement veut les taxer de 3 à 5%. Toutes ces entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros dans le monde, dont 25 millions en France, mais c'est encore insuffisant selon l'organisation altermondialiste ATTAC qui estime dans une note publiée hier que le dispositif ne couvrira en fait qu'un tiers de l'activité des GAFAM. Direction le Sénégal à présent où le président Macky Sall a donné hier la composition de son gouvernement, une équipe qui sera bientôt dépourvue d'un premier ministre. L'exécutif a en effet prévu à terme de supprimer cette fonction et ce afin de garantir l'efficacité des réformes pour le nouveau quinquennat de Macky Sall. C'est ce qu'explique la présidence, mais la décision a pris de court les membres de l'opposition, William Delesseux.
Plus de Premier ministre, la perspective est inquiétante pour Tierno Bokoum, membre de la première force d'opposition du pays.
Macky Sall, encore une fois, se met dans une logique d'une gestion solitaire de l'État. Lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des réformes aussi importantes, il serait intéressant que les populations soient impliquées. Et on a tous constaté que ce n'est pas une promesse électorale.
Pierre Goudiaby Atepa est rallié à Ousmane Sonko, l'opposant qui se définit anti-système. Il salue au contraire un risque pris par Macky Sall.
Il n'y a plus de fusibles. Il est en direct avec son peuple. Si ça marche, c'est tant mieux et j'espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas, c'est lui il ne pourra plus se réfugier derrière quelqu'un.
Après sa victoire fin février, le chef de l'État a promis une phase de dialogue politique avec l'opposition. Pour Babacar Gaye du Parti démocratique sénégalais sans Premier ministre, c'est mal parti.
Le président Macky Sall est en train de porter un coup dur à la faisabilité de ce dialogue politique. Dès lors que, de manière unilatérale, il a pris des décisions qui peuvent impacter la vie politique et démocratique du Sénégal. La suppression du poste de Premier ministre remet en cause la place de l'opposition dans le jeu politique et réduit les pouvoirs de contrôle de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée devra toutefois être consultée pour mettre fin à la fonction de Premier ministre, et ce en vue de modifier plusieurs paragraphes dans la Constitution du Sénégal.
William Delesseux à Dakar pour France Culture. Le temps de ce lundi 8 avril, gris sur tout l'Hexagone, parfois pluvieux. Au meilleur de la journée, il fera entre 12 et 19 degrés du nord au sud. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Thomas Cluzel.